Tout autour de la Méditerranée, des femmes et des hommes s'engagent pour que les lois et les mentalités changent en faveur de l'égalité entre les hommes et les femmes. Femmes, les mots ne suffisent plus. Traversons le torrent car il n'y a pas de justice. Quand la balance est truquée, gens d'Algérie, peut-on cacher le soleil avec un tamis? Je vous raconte là, les filles, l'histoire de 20 ans de folie. Voilà les paroles de cette femme qui, avec d'autres femmes d'Algérie et d'ailleurs, chante pour dénoncer une loi promulguée en Algérie le 9 juin 1984 et qui légalise l'infériorisation des femmes. C'est le code de la famille. La chanson « Wejdek Yalhad » ou « Et juge, qu'est-ce qui t'a pris ?» construite sur une mélodie de Bach Chaabi, musique populaire algéroise, offre des échappées vers d'autres genres musicaux, selon l'inspiration des chanteuses. Polyphonie kabyle, tonalité rap, chant chaoui, tempo africain, voix du rail et voix du désert. Dans cette chanson, c'est une Algérie qui vit et se révolte, qui dit sa lutte sur tous les tons, en arabe, en berbère ou en français. Caroline Braque de la Perrière, historienne et psychologue franco-algérienne, a participé à cette œuvre collective qui s'inscrit dans la campagne 20 ans Barakat, Barakat qui veut dire ça suffit, menée en France et en Algérie.
Bien sûr, c'est mon expérience de femme et je pense que l'expérience de toute femme peut mener à soutenir cette cause pour les femmes parce que nous sommes quand même dans un monde où les femmes sont quand même extrêmement discriminées, plus ou moins selon les pays, mais c'est de toute façon, les acquis sont très fragiles. On peut le voir là quand on voit qu'il y a 1 million de personnes qui manifestent en Espagne contre l'avortement, que ça peut être que le droit des, par exemple, des Espagnols pour l'avortement, qui est déjà pas complètement, qui est pas aussi bon que le droit qu'on a en France, peut encore reculer. C'est aussi vrai en Italie actuellement. Donc nous avons décidé de faire un fonds pour les femmes en Méditerranée. Parce qu'il nous semble que justement, ce qui est important, c'est de voir que c'est le cas pour les femmes dans tous les pays de la Méditerranée. On peut trouver des problèmes importants et surtout une régression pour les droits qu'elles ont acquis. Dans d'autres cas, on peut voir qu'il y a certains droits, au contraire, nouveaux qui sont acquis, comme au Maroc, par exemple, ou en Algérie. Les codes de la famille ont quand même changé. Ils restent inégalitaires, mais ils ont quand même, il y a eu quand même des grandes ouvertures pour certains articles qui vont vers l'égalité.
Le Fonds pour les femmes en Méditerranée est dirigé par des femmes originaires d'Algérie, d'Espagne, du Maroc ou encore de France, qui, de par leurs expériences de plusieurs dizaines d'années, participent à l'amélioration de la condition des femmes et à la promotion de l'égalité des sexes dans l'ensemble des pays du bassin méditerranéen.
Je suis la directrice exécutive du Fonds pour les femmes en Méditerranée. Pour moi, c'est un peu évident parce que je vous ai dit que j'étais algérienne, je suis aussi française. Donc j'ai vraiment un pied de chaque côté de la Méditerranée. Donc personnellement, je me sens totalement méditerranéenne. Peut-être avant tout. C'est vraiment mon identité, c'est d'être méditerranéenne. Donc avec les fondatrices du Fonds pour la Méditerranée, notre idée de faire un fonds méditerranéen, c'est vraiment l'idée que, justement, les femmes de toute la région méditerranéenne ont quand même affaire à un même genre de patriarcat. Nous venons d'une région d'où sont issues les trois religions monothéistes, que ce soit la religion juive, la religion chrétienne, la religion musulmane. Et nous en subissons vraiment, toute la population de la région a été quand même formatée par ces religions-là. Et ce sont des religions qui sont extrêmement patriarcales, qui sont venues renforcer un patriarcat qui existait déjà. Et nous avons donc affaire à une façon d'être et de faire qui est assez commune. Et en plus, qui est reconnue depuis quand même au moins une vingtaine d'années par les associations de femmes des bords de la Méditerranée, parce qu'il y a eu, c'était au moins dans les années 90, je n'ai plus les chiffres exactement en tête, il y avait des rencontres de femmes de Méditerranée qui ont signé ensemble un appel, une sorte de déclaration en disant qu'elles reconnaissaient la similitude de leurs conditions. Et donc, ce n'était pas d'être arabe et musulmane ou chrétienne et européenne qui allait faire les différences. C'est qu'en fait, il y a quand même une façon d'être traité. C'est d'ailleurs pour cela qu'on a mis sur notre plaquette que c'est en France, une femme est tuée tous les 3 jours par son conjoint. C'est parce que trop souvent, on va penser que c'est en Algérie que ça se passe. Or, ça se passe aussi en France. Ça se passe tout à fait aussi en Algérie. Mais ça se passe aussi en France. Donc, les choses graves peuvent aussi toucher des femmes en France, en Italie, en Espagne, en Slovénie, enfin, dans toute la partie nord de la Méditerranée. Donc, c'est en ça que ça nous a semblé important, extrêmement important, de construire cette solidarité entre les femmes de la région, qui se ressemblent et donc qui doivent se rassembler.
La petite fille veut le monde, mais son avenir est tout tracé. On prépare un mari pour elle, une maison pour l'encercler. Lui, il ira voir les filles, et puis il boira du mezcal. Elle prépare les quesadilles, et puis ce qu'il mange en général. Wow, la petite fille veut le monde, ouh, c'est trop. Wow, la petite fille veut le monde. Ça, les filles, elles sont très libres, mais on les regarde de travers. Elles ont que leur face pour vivre, elles n'ont plus ni père ni mère. Leur famille ne veut plus d'elles, elles rient des hommes dans les bars. Mais personne qui les aime, c'est une autre misère noire. Ah, la petite fille veut le monde, ouh, c'est trop. Ah, la petite fille veut le monde, ouh, c'est trop. La petite fille veut le monde, mais son avenir est tout tracé. Sa mère va faire des ménages, sécher des touristes français. Elle revient avec de la viande et des récits très luxueux. La señora est un peu folle, elle fait rien, elle dessine un peu. Wow, la petite fille veut le monde, ouh, c'est trop. Ah, la petite fille veut le monde, ouh, c'est trop.
Notre idée est de soutenir, que ce soit tout ce qui peut construire les mouvements des femmes, et dans le mouvement des femmes, ce qui peut construire les libertés de l'être humain. Donc tout ce qui va vers la liberté et vers l'égalité. Donc dans la liberté, il y a la liberté d'être soi-même, de choisir sa propre vie, et donc il y a entre autres l'orientation sexuelle, qui est donc l'homosexualité. Nous avons pris le parti de soutenir des groupes qui sont, dont le leadership et la direction va être tenue par des femmes. Ça nous semble extrêmement important parce que c'est trop souvent que les femmes sont dans énormément d'associations dans le monde et font vraiment partie de la population qui essaye de changer les choses. On le voit dans le mouvement pour l'environnement, par exemple. Il y a un nombre de femmes qui s'y investissent qui est énorme. Mais trop souvent, ce ne sont pas elles qui vont être dans les décideurs. Et d'ailleurs, j'emploie le mot... le mot est vraiment au masculin dans ce cas-là. Donc le choix du Fonds pour les femmes en Méditerranée est de financer des groupes où ce sera plutôt à la décision, la prise de décision, ce sera plutôt des femmes. Il peut très bien y avoir un homme au milieu, mais il faut surtout que les hommes ne soient pas majoritaires dans ceux qui vont prendre les décisions.
Quels projets les Fonds pour les femmes en Méditerranée soutiennent en fonction de leurs convictions ?
Eh bien, en ce moment, de toute façon, c'est aussi à la demande, hein, donc ça peut changer. Mais en ce moment, nous avons financé un projet qui nous semble très important, qui est une rencontre entre un réseau de femmes européennes et un réseau de femmes arabes. Le réseau de femmes arabes s'appelle Aïcha et le réseau de femmes européennes s'appelle l'Initiative européenne féministe ou féministe européenne. Je ne me rappelle plus dans quel sens, parce qu'il existe aussi en anglais le nom. Donc ça, elles ont une rencontre et ça nous semble exactement aller dans le sens de ce que nous aimerions construire, cette espèce de mouvement de femmes au niveau régional. Enfin, nous aimerions participer à construire, parce que ce n'est pas nous qui décidons. Mais nous finançons aussi un groupe de femmes arabes d'Israël pour le renforcement des capacités. Et dans ce groupe-là, il y a un groupe de jeunes femmes homosexuelles qui ont besoin d'aide aussi. Donc nous aidons aussi nous soutenons aussi leur initiative. Nous soutenons aussi un centre de documentation au Maroc sur les droits des femmes. Et nous allons soutenir la campagne, tout un travail énorme qui est en train d'être fait sur l'héritage dans les trois pays du Maghreb, Tunisie, Maroc et Algérie. C'est un travail commun. Puisque la loi sur l'héritage, est inégalitaire dans tous les pays musulmans. Par exemple, en Tunisie, c'est le dernier bastion de l'inégalité dans la loi. Tout le reste de la loi est égalitaire, mais il y a toujours l'héritage qui reste inégalitaire. Et c'est un morceau très difficile parce que c'est tabou, parce que c'est relié à la religion. Et vu la force du mouvement intégriste actuellement, c'est quand même quelque chose de très difficile. Ça risque d'être un travail sur un long terme. Mais ça fait partie des travaux que nous allons soutenir, des projets que nous allons soutenir.
Nico-Claude Mathieu, anthropologue social, se penche plus particulièrement sur la conception du sexe et écrit un ouvrage où les idéologies témoignent du sexe social que l'anatomie est politique. Alors, que pensez-vous de ces propos ?
Moi, j'adore ce bouquin. Je pense que c'est le travail de Nicole-Claude Mathieu, qui s'appelle « L'anatomie politique », justement, à mon avis, est extrêmement intéressant. Je pense qu'en effet, l'anatomie est politique parce qu'en fait, nous sommes des êtres humains, certes, avec une différence qui est importante, et c'est d'ailleurs sur laquelle se base ensuite toute l'inégalité, qui est qu'il y en a qui vont porter les enfants, il y en a d'autres qui ne vont pas les porter. Donc, si vous voulez, à partir de là, il y a un nombre de choses qui vont se mettre en place parce qu'il va falloir tenir les personnes qui portent les enfants en tant que propriété. Il va falloir pouvoir les contrôler. À partir de là, va en découler tout le contrôle du corps des femmes, et dans lesquelles les religions ont un rôle énorme, jouent un rôle énorme, mais aussi, en plus des religions, toute une certaine violence, la domination masculine, dont parlait aussi Pierre Bourdieu, dont peuvent parler aussi des hommes, cette domination masculine qui se met en place quand même, entre autres, par la violence, l'usage de la violence. Et c'est ça, d'ailleurs, que j'appellerais quiconque veut le lire dans le bouquin de Nicole-Claude Mathieu, que je trouve extrêmement intéressant, qui est tout le passage sur le consentement. Sur le fait qu'en fait, la domination masculine, il y a un apprentissage au moyen de la violence qui se fait extrêmement tôt sur les petites filles qui vont, dès les premières années, qui vont apprendre aux petites filles qu'il y a des choses qu'elles ne pourront pas faire car elles seraient en danger. Elles se mettraient en danger. C'est une longue histoire, donc je pense que ça demande carrément un cours, mais c'est vraiment, je trouve que c'est à la fois très vrai, l'anatomie est politique, oui, certes.
Merci.
Ben, merci beaucoup.
C'était Caroline Braque de La Perrière. Les femmes méditerranéennes, une émission réalisée par Capucine Caro de l'association Wakadi à Montpellier, qui signifie « On a quelque chose à dire ».